RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Il y a les angles droits, il y a les angles aigus et il y a les angles obtus. C'est ce dernier choix qui a été effectué aujourd'hui par l'équipe UAE et son leader Tadej Pogacar, qui n'a pas de stratégie à géométrie variable. Obtus, synonyme borné. On veut tout croquer. Le champion du monde a mis la tête au carré à tous ses adversaires dans la montée finale de la station des angles et empoché le maillot jaune pour la première fois et sans doute pas la dernière. Poggi et son équipe ont-ils eu raison de ne pas laisser la victoire aux échappés? Vingegaard, Carapaz, Lipovic, Evenepoel et les autres sont-ils condamnés à être spectateurs dans ces courtes montées? On reviendra également dans cet after tour sur l'étape moins compliquée vécue par Paul Sexas, quatrième aujourd'hui. Et enfin, on a eu du beau, du bon, du Baudin. La belle journée du français Alex Baudin, nouveau maillot à pois, est au menu de l'after. On est à l'heure que du bonheur.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la route du Tour avec l'équipe de l'intégral Tour de France. Tour de France 2026, c'est la troisième étape aujourd'hui. Et dans un instant, l'arrivée, enfin le passage au col de Tozas, c'est comme oui. On dit en et catalan.
Alex Baudin donc, qui passe en première position devant Nicolas Prodhomme et qui va prendre 10 points. Il se passe des choses hein, forcément sur la route du Tour avec une attaque, celle d'Alex Baudin, le français. Ils ne sont plus que deux parce que Nicolas Prodhomme a fait le jump, il a rejoint Alex Baudin.
Nico, vas-y, on y croit là.
Deux Français en tête à 32 km de l'arrivée, mais il reste encore 8,2 km dans ce calvaire avec la chaleur, avec les pentes. Le calvaire est terminé pour Alex Baudin et Nicolas Prodhomme. C'était l'expression de ce col du calvaire. Ils viennent de passer au sommet. Alex Baudin a à nouveau pris les points. Il aura le maillot de meilleur grimpeur tout à l'heure et j'ai l'impression que Nicolas Prodhomme va peut-être se relever. Ils sont que 40 secondes derrière, hein, donc à 23 km de l'arrivée. On va voir si Nicolas Prodhomme poursuit son effort ou pas. C'est parti pour cette dernière difficulté, la montée vers les angles, 1 700 km, 6,5% de moyenne. Peloton emmené par Vacek.
RMC, la flamme rouge.
Voilà le petit groupe de tête, tous les favoris. Il n'y a pas de place pour les outsiders aujourd'hui. Ce sont encore les plus forts qui vont se battre pour aller chercher l'arrivée, la victoire. Levez les bras. C'est parti pour Tadej Pogacar. Le sprint est lancé, nous sommes à 200 mètres. Vingegaard est dans la roue, il ne peut pas, il s'en retrouve déjà. Paul Sexas va essayer de tenir dans la roue de Vingegaard pour aller chercher éventuellement les accessites. Vingegaard est battu. Tadej Pogacar est facile, il se promène, il ne fait pas de cadeau aujourd'hui. C'est pour lui la victoire. Victoire pour Tadej Pogacar, deuxième Vingegaard, troisième Carapaz, quatrième Paul Sexas.
Voilà la victoire de Tadej Pogacar aujourd'hui aux angles devant notamment Jonas Vingegaard, devant Carapaz, devant Paul Sexas. Les UAE aujourd'hui avaient décidé une nouvelle fois de tout croquer. C'est Isaac Del Toro qui a fait le boulot pour son leader, contrairement à hier. Autour de la table pour cet after tour, notre directeur sportif Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Bonsoir à tous.
Notre capitaine de route Jérôme Pinault. Salut Jérôme.
Salut à tous.
Notre rouleur, grimpeur, coureur complet Jérôme Coppel.
Bonsoir messieurs.
Et vraiment un grimpeur pur Richard Vien qui est avec nous. Bonsoir Richard.
C'était avant. Hein. Bonsoir à tous.
Oui, mais aussi, hein, t'inquiète, hein, y a pas de souci. Est-ce que les UAE, Richard, auraient pu laisser la victoire aux échappés? Tiens, tu nous lances le débat. Qu'est-ce que t'en penses?
Écoutez, je pense que oui, mais c'est une question d'éducation. Hein, vous savez, si on est quelque part, on est bien, pas bien éduqué, mais quelque part, on se rend compte qu'on domine quand même bien la course. C'est des conseils, c'est tout ça, parce qu'ils ont démarré le tour. Ils ont fait un début de saison tonitruant depuis le début de saison. Pogacar gagne beaucoup et là à mon sens, bon, ils sont allés sur le coussin d'air du départ du tour. Donc, à mon sens, ils auraient dû laisser partir. Bon, ça aurait été sympa pour nous parce qu'on aurait dit cocorico, hein, parce que on aurait gagné l'étape aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Ben, ils cannibalisent un peu le... Voilà ce début de tour. Je pense que on peut se mouiller en disant demain ils vont laisser partir, parce que là ça serait de trop, mais voilà, bon, c'est comme ça. Je pense que hier c'était prévu que Poggi gagne. Il y a eu un Natsexit qui est passé, son équipier Del Toro était là, donc allez, on l'a fait gagner, donc voilà, donc ils avaient prévu de gagner encore aujourd'hui. Bon, je pense que c'est les plus forts, ça c'est sûr.
Jérôme Pinault, il y a eu peut-être une hésitation. On écoutera dans quelques instants Tadej Pogacar. C'est-à-dire qu'en début d'étape, peut-être qu'ils se sont dit « Allez, c'est pas pour nous aujourd'hui, on est tranquille, on n'a pas besoin d'aller chercher la victoire. » Ou selon toi, comme Tadej Pogacar n'avait pas gagné hier, fallait encore appuyer un petit peu sur la tête des adversaires?
Je pense qu'ils n'avaient pas forcément prévu ce plan-là au tout départ. Bien sûr, il fallait suivre les coups. Bien sûr, il fallait voir comment le départ se passait. Et puis, comme la course s'est lancée dès le kilomètre zéro avec énormément d'attaques, ça les a emmenés jusqu'à quasiment mi-course à n'avoir rien à gérer. On l'a vu dès que les Visma Lisebike, eux, se sont mis à la barre pour dire « Bon, stop, ça suffit, on laisse partir cette échappée. » Mais c'est à ce moment-là, a priori, que Tadej Pogacar a décidé avec ses directeurs sportifs de prendre la barre et de se dire on va gagner. Alors après, c'est sûr que là, c'est de la théorie sur la pratique, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir dire à mi-course, quand il y a 14 coureurs devant, on va gagner, on va rouler, je vais gagner. Bon, c'est oui. Qu'il est au-dessus. Hein.
Déjà, le vainqueur a toujours raison. Donc, ils ont roulé, ils ont gagné, la journée est réussie. Mais si ils ont pris la décision à mi-course, c'est en partie, je leur jette pas la faute, mais c'est le scénario de la course qui est comme ça, c'est en partie à cause de Visma. On l'a dit, Visma les maintiennent à 2 minutes. Si à mi-course, il y a 5 ou 6 minutes, UAE, ils vont pas. UAE, ils vont pas. Donc, finalement, est-ce que l'erreur, elle est pas... Enfin, l'erreur, il n'y a pas un gros écart encore, mais le début d'erreur, est-ce que c'est pas Visma qui maintient cette échappée à 2 minutes 10 pendant longtemps, jusqu'à quasiment mi-course? Peut-être que s'ils avaient vraiment laissé partir à 6 minutes, UAE ne serait pas venu, mais au final, ils ont gagné. Quand tu gagnes, tu as toujours la bonne stratégie.
On va écouter justement ce qui s'est passé un peu au sein de l'équipe, où il y a peut-être eu des hésitations, dans la voix de Tadej Pogacar, tout de suite, qui va nous donner l'évolution finalement de la pensée chez les UAE aujourd'hui.
C'est grâce à Isaac cette victoire. Il s'est donné à 100% dans la dernière ascension. Au milieu de l'étape, nous avons décidé qu'il était possible de viser la victoire. Et je suis vraiment très heureux que nous ayons commencé le tour comme ça. Et oui, quelle arrivée incroyable.
Voilà, donc c'est au milieu de l'étape, finalement, Richard, que les UAE ont décidé d'attaquer. Ça se fait des fois comme ça. Il y a des consignes dans le bus le matin et puis on peut changer. Selon toi, dans le bus, c'était on voit, on laisse partir éventuellement?
Oui, ça évolue au fil de la course, mais il est clair que quand UAE a senti qu'on était plus qu'à 80 km de l'arrivée et que tout était encore pour la gagne, ils se sont sentis que le repas pouvait être sympa à l'arrivée et ça leur a donné envie, surtout qu'ils sont... C'est le vélo facile, vous savez, quand vous pédalez et ça vous réussit de telle sorte... On y va, c'est-à-dire le déboire d'effort, on se lâche, on en fait. Et ils ont été chercher l'échappée de devant avec quelques coureurs du UAE. Ils n'ont pas mis toute la formation à se faire sauter la caisse. C'est seulement quelques coureurs du UAE qui est allé les chercher gentiment. Et voilà, donc comme ils sont très forts, c'est presque facile le cyclisme à ce niveau-là. C'est simplement, à un moment donné, il faut avoir un peu de recul sur ce qu'on donne en image, sur ce qu'on prend il en faut un peu pour tout le monde et là je pense que ça doit un peu crisser dans le peloton, donc c'est sûr que la course, on peut la décider à mi-course ou dans, on avait prévu un scénario, on le change parce que d'un coup, un, on se sent bien et deux, il y a une situation de course qui est rêvée pour qu'on puisse encore mettre la balle au fond.
Tu l'as laissé entendre légèrement, Jérôme Coppel, il y a quelques instants. Il y a aussi cette équipe Visma Lisebike qui a roulé. Alors là, on ne comprend pas, en fait. Est-ce que la stratégie, ce n'est pas de dire « Non, mais vous, vous débrouillez. Nous, on s'économise derrière. Le Tour de France, c'est 3 semaines. On a l'impression qu'ils sont déjà en train de gérer la 2e place et faire des efforts inutiles. » Et à l'image d'hier, où on voit l'équipe Visma Lisebike qui dépanne Isaac Del Toro. Il y a des choses...
Ils avaient quand même le maillot jaune sur les épaules. Il était sur les les épaules de Vingegaard, le maillot jaune. Normalement, c'est à l'équipe qui a le maillot jaune de le défendre. Non.
Oui, mais tu peux rouler moins vite pour laisser l'échapper prendre plus de champ.
Je pense surtout qu'on est encore dans le round d'observation de ce Tour de France, que les premiers échanges de coups se donnent et que chacun veut marquer son adversaire en début de tour. À partir de demain, ça va changer sans doute d'âme, mais là, on est encore dans le round d'observation. Donc tout le monde essaye de frapper l'autre le plus fort possible. Et effectivement, les plus forts aujourd'hui, et encore depuis le début de ce tour,
ouais, je suis pas d'accord avec toi, parce que laisser filer un maillot, on l'a dit hier, c'est pas compliqué. Là, c'est eux, ils ont le maillot jaune, t'as raison, ils doivent assumer le poids de la course, mais t'es pas obligé de maintenir l'échappée à 2 minutes 30 devant.
Ils n'avaient pas décidé de laisser filer ce maillot, les Visma, puisqu'ils mettaient Jorgensen dans les coups au début de l'étape. Il jouait quand même quelque chose. Non, mais ils voulaient pas tout laisser filer.
Non, mais si tu lances Jorgensen devant, c'est peut-être pour pas rouler derrière et pour avoir une chance de gagner l'étape aussi. Mais finalement, en gardant cette échappée trop proche, ça a donné des idées à UAE, parce que si t'as 6 minutes à boucher à 100 bornes de l'arrivée, ou si t'en as 2 comme c'était le cas, c'est pas pareil. Hein. Richard a raison, McNulty et Adam Yates n'ont même pas roulé aujourd'hui, et Del Toro a fait les 500 derniers mètres, donc ils ont limé déjà pas mal de mecs, mais ils n'ont pas mis toute l'équipe à la barre. Si t'es à 6 minutes, tu dois faire rouler tout le monde pour gagner, et ils ne l'auraient pas fait.
C'est pour ça que ni les uns ni les autres n'avaient en fait abandonné l'idée de remporter l'étape et de conserver ou de décrocher le maillot jaune.
Alors je pense que l'erreur vient de Visma dans ce cas-là, vient de Visma, parce qu'ils ont perdu le maillot jaune. Donc si au départ l'idée c'était pas de le perdre, ils ont perdu le maillot jaune et ils ont repris une tape derrière la tête avec Pogacar qui a gagné. Du coup, l'erreur viendrait de Visma, si c'est ça.
De toute façon, on a vu depuis 2 jours qu'il y avait une équipe qui était vraiment au-dessus.
À peine.
Simplement, Richard, maintenant, UAE va être obligé de supporter le poids de la course. Est-ce que c'est tôt ou est-ce qu'en fait, c'est pas un souci et c'est vraiment anecdotique pour eux.
Vu comme ils marchent, je veux dire... il va y avoir des échappés, donc maintenant comment ils vont gérer? Ils vont choisir un peu qui va partir, ils vont laisser partir 15-20 mecs demain et après ils vont rouloter, c'est 2-3 mecs qui vont rouler devant, et Pogacar va boire, manger, récupérer, il fera son protocole, tout va bien, il est en jeune, la vie en jeune, donc moi je pense qu'ils sont tellement forts que ça leur fait pas peur. Et même à un moment donné, ils peuvent... parce que regardez, les prochaines hostilités, peut-être dans le Tourmalet, mais aussi le prochain... Rune vraiment costaud entre les favoris pour le Tour, c'est quand? C'est la dernière semaine du Tour. C'est peut-être dans 2 semaines. Donc là, qu'est-ce qui pourrait être imaginé? Ils laissent partir... qu'ils choisissent un Français qui aille se manger 7-8 jours en jeûne, et tout le monde est content.
Ouais.
Dès demain, par exemple.
Mais le poids de la course, aujourd'hui, ils n'ont pas le maillot jaune. Et qui a eu le poids de la course?
Bien sûr
qu'on roulait toute la journée.
Ça leur
finalement
fait pas peur.
Non, et demain, ils ont le maillot jaune. Et ça se trouve, ils vont moins assumer la course. Ils vont peut-être laisser partir l'échappée. Mais finalement, avec le maillot jaune, ils vont continuer à rouler. Je veux dire, le peloton ne va pas terminer à une demi-heure non plus demain. Mais ils ne vont pas se mettre à la planche comme aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas.
Demain, ils sont tellement forts, parce qu'on est dans des schémas d'antan. Mais ça a tout changé. Cette équipe est tellement forte que demain, ils vont choisir qui va porter le maillot jaune. Ils vont surtout choisir un coureur d'une équipe qui a tout intérêt à le défendre et une équipe solide. À ce petit jeu-là, EF, Trek, qui a déjà un leader, mais qui a des coureurs qui souhaitent aller à l'avant, c'est des équipes typiquement faites pour contrôler la course et avoir le maillot longtemps.
Fait pour
ça. Tiens, justement, avant de vous entendre peut-être sur cette thématique, on va rappeler les classements, parce que ça va peut-être nous donner une idée des garçons qui, eux, ne vont pas pouvoir sortir. Et il faudra aller chercher un petit peu plus loin autant. On rappelle le classement de l'étape, Christophe, tout d'abord, avec cette victoire donc de Tadej Pogacar.
Exactement, Tadej Pogacar qui s'impose avec 2 petites secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Ils sont toujours collés l'un à l'autre. Hein. Ça fait des années que c'est comme ça, que ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Richard Carapaz termine à la 3e place. Lui aussi crédité de 2 secondes de retard. Devant Paul Sexas qui est 4e, Johannessen 5e. Remco Evenepoel, lui, n'est que 8e à 4 secondes. Del Toro 9e dans le même temps. Et puis Lenny Martinez et le 2e français. Il termine 13e avec un retard de 12 secondes. Voilà donc pour le classement de l'étape.
Au classement général, donc qui n'a pas de bonne sortie, qui est dans le top 10 et n'aura pas le droit d'aller chercher.
Alors d'abord, le classement général, pour vous dire qu'il y a normalement dans une autre compétition, il y aurait 2 deux co-leaders en fait. Hein. Ouais. Il y aurait deux maillots jaunes à distribuer puisqu'ils sont dans la même seconde. Pogacar et Vingegaard, et que Pogacar devance Vingegaard en fait d'une place, puisqu'on a additionné les places réalisées par les deux Lascar depuis le début de ce Tour de France. Et donc il y a une place d'avance pour Pogacar. Donc c'est pas une domination outrageuse quand même là. Vous n'allez pas me dire ça. Il y a une place d'avance, c'est tout. C'est ridicule. Troisième, Evenepoel à 23 secondes. Del Toro est quatrième au classement général à 24 secondes. Ayuso, cinquième à 27. Et Paul Sexa, sixième à 48 secondes. Suivent Lipovitz, Martinez, Johannessen et les autres. Voilà donc pour le classement général.
Alors, c'est pas une domination outrageuse. Il n'empêche que c'est le ressenti, peut-être, dans le peloton, d'avoir le sentiment de ne rien pouvoir faire face à l'ogre Pogacar et à l'ogre UAE. Maria Azé, tu nous as rejoint. Tu vis au cœur du peloton. Le matin, tu circules un peu entre les bus. Tu discutes avec beaucoup de monde. Et c'est ce qui ressort un peu. Il y a un peu d'agacement quand même autour de cette domination.
Bah surtout, il y a vraiment le sentiment de ne rien pouvoir faire. Et au bout d'un moment, c'est sûr que c'est forcément lassant. On reste là pour 3 semaines de course. Ils sont là depuis un petit moment déjà. Donc on part quasiment pendant un mois. Et on parle de stratégie, évidemment. On demande à chaque équipe leur stratégie du jour. Par exemple, aujourd'hui, la stratégie dans beaucoup d'équipes, c'était de mettre un grimpeur dans l'échappée. Pourquoi pas, si c'est l'échappée qui... Voilà, l'échappée, elle est au bout, c'est le grimpeur qui s'impose. Mais au final, ils sont toujours en train de dire on a cette stratégie, mais bon, ça dépend de ce qu'a décidé et ça dépend de ce que va faire UAE. Et tous les matins, c'est pareil. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils en ont un petit peu marre, forcément, parce que ils peuvent rien faire. Et si la machine UAE, le compresseur UAE a décidé de s'imposer, ils peuvent pas faire grand chose, les autres équipes. Mais d'ailleurs, on a Romain Grégoire qui nous en parle un peu plus, pas dans ses termes exacts, mais on comprend un peu que c'est l'idée. On l'écoute, Romain Grégoire, le coureur de Groupama FDJ.
Comme les autres années, c'est malheureusement comme ça qu'on a l'habitude de courir en ce moment. Sur toutes les courses, ils écrasent un peu la course, donc j'espère qu'ils vont quand même en laisser un petit peu sur ce Tour de France, mais ouais, ils commencent fort.
Voilà, ils commencent fort et ils espèrent qu'ils vont en laisser un peu sur le reste de la course. Des coureurs comme Romain Grégoire qui avait ciblé typiquement l'étape d'hier. Il aura d'autres possibilités, Romain Grégoire, sur des étapes de pure puncher. Mais c'est pareil, ça dépend vraiment de la stratégie du UAE Team Emirates.
On en saura plus demain, comme tu le disais tout à l'heure, Richard. Peut-être la possibilité pour des garçons d'aller chercher le maillot jaune. D'ailleurs, la question lui a été posée à Tadej Pogacar aujourd'hui parce qu'il passe, on le rappelle, à 23 victoires d'étape sur le Tour. Ça veut dire qu'il rentre dans le top 5 avec André Le Duc, Bernard Hinault, Eddy Merckx et Mark Cavendish qui est à 35, donc il y a encore un peu de chemin. Mais en gros, il a dit non, mais je me satisfais de la joie d'hier, de celle d'aujourd'hui. On voit peu à peu ce qui arrivera, on verra, mais c'est encore loin. Richard, tu penses que ça avait été évoqué au début, on parlait du cannibale de l'ogre qui voulait manger tous les records. Depuis un an ou deux, on a le sentiment que c'est un petit peu moins le cas. Si tu étais dans la tête de Pogacar,
je pense qu'il va aller, chercher son cinquième, il va essayer de gagner son cinquième tour et il va commencer à penser à en même temps mettre là ce record là. C'est dans la possibilité, hein, parce que s'il domine comme ça, l'année passée il a gagné quoi, 4 étapes, c'est ça, l'année passée, Pogacar ?
L'année dernière, 4, et l'année d'avant, 6.
Ouais. Donc, je pense que là, vu comme il marche cette année, je le vois déjà plus fort que les autres années. Si tout va bien, il peut en mettre au moins 4 ou 5 dans le sac. Donc il va rapidement arriver au record. Donc, voilà. Donc, si, je pense que c'est quelqu'un qui aime les records, hein. Et il aura peut-être, quand il va poser son vélo, se dire eh ben voilà, j'ai gagné toutes les courses du calendrier, toutes les plus belles courses, je les ai gagnées. Et c'est quelqu'un qui est de cette trempe. Donc, c'est bien possible.
Merci Richard. On enchaîne sur les adversaires de Pogacar. Donc, Pogacar, maillot jaune. Et est-ce que du côté des Vingegaard, des Ayuso, des Lipovitz, des Evenepoel, on est réduit finalement à un rôle de spectateur? Jérôme Coppel, est-ce que tu, de ce que tu as vu d'aujourd'hui, et c'est un peu l'image vraiment de le photographe qui est sur la ligne, qui prend la photo hier, il voit Ayuso, Pogacar et puis les autres derrière qui regardent, aujourd'hui c'est un petit peu la même chose?
Oui, c'est la même chose. Sur ce qu'on voit depuis le début, y a Tadej Pogacar, il y a les autres, mais ça on le savait quasiment avant d'arriver au départ à Barcelone. C'est le scénario qu'on attend. Après, je pense que les autres, alors j'espère qu'ils ne pensent pas déjà à la deuxième et troisième place. On n'a fait que trois étapes, mais on sent bien que Pogacar est un peu seul sur sa planète. Maintenant, il y a des coureurs qui ne sont pas non plus vraiment sur leur terrain. Alors, ils ne vont pas jouer Pogacar. Pogacar, il est au-dessus de la mêlée. Point. S'il n'y a pas de problème, il va gagner son cinquième Tour de France. Et il ne reste plus qu'à savoir qui va faire deuxième ou troisième, ou avec combien d'avance Tadej Pogacar aura sur le deuxième. C'est plutôt ça les questions. Mais derrière, un Lipovic, si ce n'est pas du tout son terrain, c'est boss punch. Comme ça, il limite pour l'instant la casse. Les autres aussi, finalement. Il y a peut-être Remco Evenepoel qui est là, autour de qui on a plus d'incertitudes sur les longues ascensions. Mais oui, les autres sont spectateurs comme nous, quasiment, de Tadej Pogacar, hein, ça c'est sûr.
Oui, je pense comme GG, parce que aussi dans cet enchaînement de trois étapes, on a un départ du tour qui est difficile et atypique. Donc effectivement, dès le départ, on est sur les favoris. On n'a pas le même départ que l'an dernier. Par exemple, l'an dernier, le maillot jaune, au bout de trois étapes, c'était Mathieu Van Der Poel et on n'avait pas commencé cette grande bataille. Alors certes, ils se regardent et ils ne sont pas abattus, peut-être. Par contre, ils ont évidemment constaté, comme nous, la grosse domination de Tadej Pogacar. Après, ça dure trois semaines. On est sur des registres punchy pour le moment. Et comme tu le dis, Jérôme, il y a aussi des coureurs, Ayuso, Lipovic, même Paul Sexas, on le sait. Le Français, il est allé retravailler plutôt des zones plus longues, de montées plus longues. Il a beaucoup plus travaillé la haute montagne que le punch ces derniers temps, parce qu'il a été priorité sur les classiques au début, donc Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, puis maintenant des longues montées. Il y en a qu'un qui sait tout faire et qui est bon tout le temps, parce qu'on a perdu sa perte de poids pour Roubaix, mais 15 jours après, il gagne Liège-Bastogne-Liège, qui est quasiment une étape de moyenne montagne, avec même 10 kilos en trop, ou 8, ou 6, ou 4, il gagne quand même. Lui, il faut l'enlever de ces catégories-là, il ne faut pas le comparer. Quelqu'un d'autre que lui gagnera le Tour de France que s'il lui arrive quelque chose. On en est sûr, ouais, de ça. Ouais. Depuis le début, on le dit. Il est le grand favori du Tour de France. Ce soir, le 10e du classement général, il est à une minute. Hier soir, le 50e était à 10 minutes. Ce soir, c'est le 30e. Et puis dans une semaine, ce sera le 10e ou le 15e. Il est au-dessus. Maintenant, il n'est pas interdit qu'il lui arrive quelque chose, ou qu'il ait une défaillance, ou qu'il fasse des mauvais choix. Là, aujourd'hui, moi, je suis désolé, c'est beaucoup d'énergie pour aller gagner une étape du Tour. Il en a gagné plein déjà. Est-ce qu'il est dans une stratégie globale où il se sent très très fort ? Aujourd'hui, il est sûr d'un truc, c'est qu'il est au-dessus. Parce qu'il ne gagne pas cette étape pour gagner le Tour. Il gagne cette étape pour gagner cette étape.
Je suis complètement d'accord avec toi sur ces beaucoup d'énergie. Il a déjà gagné plein d'étapes, etc., etc. Mais nous, on a connu l'époque Sky qui dominait aussi et qui était des épiciers. Et on gueulait et les journalistes en disant « Ah, il n'y a pas de panache, gna gna, il domine sans panache, il crache sur une étape du Tour alors qu'ils peuvent aller la gagner, etc., etc. » Ben là, on a une nouvelle équipe qui domine, qui a du panache, et ça ne va pas quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait
qu'un Français gagne trois étapes et soit un maillot jaune. Ça, évidemment, on préférerait. Il faudrait qu'il y ait un maillot jaune qui change d'épaule tous les soirs. Mais là, on est dans le cyclisme fiction. On a le cyclisme réalité, c'est Pogacar largement au-dessus et qui gagne de...
Nous, les médias français, nous tous, parce que vous êtes journalistes, nous consultants, on l'a provoqué un peu déjà, ce premier un peu ras-le-bol au bout de trois jours. Pourquoi ? Parce que ça fait... Au grand public notamment, ça fait longtemps qu'on dit « Ah, cette année, ça va être différent parce qu'il y a Paul Sexas. » Et le baromètre des gens, c'est Paul Sexas. Et de voir ce mec qui domine et voir Paul qui a galéré, qui finit à l'arrache, mais qui n'arrive pas, ça va agacer plus vite. C'est sûr que par rapport aux autres années, la domination Pogacar va agacer plus vite.
C'est pour ça qu'on disait ce week-end dans les grandes gueules du sport, ce tour est excitant, oui mais, c'est-à-dire qu'on craignait que la domination de Pogacar s'exerce dès le début du Tour de France et que le suspense disparaisse rapidement. Donc effectivement, l'excitation, c'était la présence de Paul Sexas, mais l'inquiétude, c'était la domination de Pogacar. Et pour l'instant, on en est là. Hein.
On a notre page réservée à Paul Sexas, on va en reparler dans quelques instants, mais c'est vrai que là, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité non plus dans les adversaires directs, même si on sait qu'il va peut-être de pouvoir être là dans ce podium.
Pour l'instant, c'est statu quo derrière Poggi.
Oui, mais exactement, c'est à peu près...
C'est la deuxième place qui va nous intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser le plus dans ce Tour de France, c'est le classement du maillot blanc. Voilà ce que je te dis.
Super, on en est là.
Il y aura une vraie bagarre entre de vrais cadors, de jeunes cadors, et je pense que ça va être beaucoup plus excitant que le maillot jaune.
Richard, c'est assez triste quand même de se dire on est au troisième, quatrième jour du Tour de France. C'est quasiment plié, c'est ce que disait Jérôme Pinault à l'instant. Il faut qu'il lui arrive quelque chose chose à Tadej Pogacar pour qu'il ne gagne pas ce tour. Mais pour ça, il faut peut-être l'agresser, en fait. Il faut peut-être que les équipes l'agressent.
Oui, oui, mais il y a les conditions climatiques qui peuvent être là. La nature. La nature, vous avez vu, ils ont failli être touchés par le feu, les feux de forêt avec les fumées noires, tout ça. Donc ça a été très compliqué aujourd'hui pour les coureurs. Non, mais hormis ça, je pense
c'est
que...
C'est plus la chaleur, quoi.
Ouais, voilà, la chaleur. On annonce une vague de chaleur qui va taper la France à plus de 42 degrés. Donc, si les préfets n'annulent pas la course, ça peut être très compliqué pour Pogacar, ça. Donc, voilà, c'est ces conditions-là. Après, il n'est pas à l'abri à cause de cette chaleur d'un problème gastrique, d'accord ? Il n'est pas à l'abri à cause des chaleurs. Vous savez, quand il fait très chaud, il y a le goudron qui fond. Et glisser dans une descente et de se faire des bobos. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, la route est longue.
Mais pour ça, il ne faut pas le laisser dans un siège confortable. C'est là où il faut peut-être l'agresser, le surprendre.
C'est trop cool, quand on est trop sûr de soi.
L'excès de confiance, exact. Voilà,
l'excès de confiance, et ben c'est là qu'il peut y arriver un vrai problème. Donc, on n'est pas. C'est comme il dit, je pense qu'il a dit je chope le jour, je gagne aujourd'hui, c'est assez pris, c'est bon, c'est à prendre. Bon, quand on regarde le parcours du tour, pour bien connaître la dernière semaine. Il va en falloir du jus et de l'énergie dans la dernière semaine, les deux derniers jours du tour. Vous savez, quand vous démarrez le tour, tout coureur, il a une quantité, on va dire, de force. On va imaginer une bouteille d'eau d'un litre et demi. Tous les jours, vous en jetez un peu, vous savez, de cette bouteille. Et si vous arrivez dans la dernière semaine, la bouteille, elle est vide, ben elle est vide, c'est sec. Donc voilà, mais ça, Pogacar, ben il est dans le sport plaisir, il se fait plaisir, il tape, il y va.
Sauf que j'ai l'impression, Richard, que lui, il a une bouteille de 10 litres et les autres, ils ont une bouteille de 5 litres.
Ça aussi, on a un peu cette impression qu'il a une citerne derrière lui et que lui, il peut remettre...
avec son gros Léon.
Ouais, voilà, donc bon. Mais en tout cas, il y a le basculement qui va arriver. Et le tour peut devenir aussi magique et passionnant parce qu'il y a une échappée qui va... Et ça, ils vont le comprendre, UAE. Ils vont le comprendre et ils vont choisir. C'est eux qui vont choisir. C'est là où les managers, directeurs sportifs, il faut qu'ils aillent négocier avec l'équipe UAE, dire « Bon, allez, attends, tu laisses partir ce groupe. Vous allez gagner quand même le tour. Nous, on va faire le spectacle. On va faire rêver les Français et tout ça. Et s'il faut, et ben, il va avoir un élu qui va remporter... on va dire une étape et le maillot jaune pendant plusieurs jours et on va oublier tout ça et à la fin Poggi va arriver, il va les secouer, merci, au revoir. Ouais, je pense le tour fait que démarrer .
Ouais, c'est sûr. On parle tu parles de bouteille d'eau là, justement, qui se vide peu à peu. En conférence de presse après sa victoire, il a été interrogé par nos confrères de la presse écrite sur ses progrès par rapport à la chaleur. Et il a expliqué que c'était un cauchemar logistique, ça c'est certain, au niveau de l'équipe pour s'organiser, mais qu'il y avait eu beaucoup de progrès de fait avec de la glace, de l'eau.
C'est pas Yannick Sinner, Pogacar. Hein. Il va pas tomber comme ça du jour au lendemain avec la chaleur.
Il dit on s'entraîne beaucoup désormais dans la chaleur, mais il dit quand même. Par rapport à ces séances d'entraînement où il est tout seul, il n'y a pas une voiture derrière où il faut gérer l'eau, etc. C'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir cette voiture. Vous pouvez aller chercher des bidons, vous rafraîchir, redescendre la température du corps. Et par rapport à il y a 5 ans, les sensations, il dit, sont différentes. Il dit, je suis beaucoup mieux préparé. Donc ça ne sera peut-être pas non plus un obstacle véritable pour lui.
Il ne reste plus que les pots de bananes sous les...
Le petit espoir, même s'il est... Il est mince et il y avait quelques circonstances atténuantes en 2023. Rappelez-vous, il est arrivé avec une préparation évidemment tronquée un peu ou diminuée parce qu'il avait chuté. Il s'était cassé le poignet, les bastonnièges. Mais en 2023, il en mettait partout. Dans les 10 premiers jours, dès qu'il y avait une bosse, il attaquait. Oui. On a assisté dès la première difficulté à une attaque de Pogacar avec Vingegaard dans la roue et Victor Laffey à l'époque. Rappelez-vous qu'on s'est tout de suite dit « Oh, bah, c'est reparti ». Il va le défoncer. Et puis, rappelez-vous aussi, I'm fucked, I'm dead. Ça, c'était le col de la Louse. Et là, il a coincé. Il a déjà coincé.
L'arrivée à Courchevel. Là,
ça peut arriver. De la Louse, effectivement.
La Louse.
Et ça peut donc arriver que Poggi soit arrêté sur la route. Ça peut arriver.
Je rebondis, Richard, sur ce que tu disais il y a un instant en posant la question à Jérôme Coppel. Tu disais, c'est le moment, peut-être, pour les équipes d'aller voir les UAE en négociant. Est-ce que c'est vraiment ça dans les coulisses? C'est-à-dire,
ah bah, Jérôme,
est-ce que...
Eh bah oui.
Mais bon, nous, on ne sait pas, Richard. Bah, est-ce que ça se passe comme ça?
Ça se passe comme ça. Ça dépend les relations que vous avez avec les autres équipes. Mais il y a des discussions. Et il y a des équipes que ça arrange, d'autres moins. Et à un moment donné, il y a le poids de la course qui va être porté par une autre équipe. Et ça l'a toujours été comme ça. Et bon,
t'as un souvenir?
Ouais. Non, mais c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont... Mais il faut lancer, pour que ça se passe, il faut lancer les dés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a la discussion qui va être opérée dans la course. Ça va discuter dans la course. C'est sûr que ça ne va pas être à l'écoute de tout le monde. Mais imaginez une échappée avec plusieurs coureurs. Et c'est là où il va y avoir des discussions. Dire, attends, nous devant, on ne représente pas de danger. Vous avez besoin... Et là, à un moment donné, ils vont vite comprendre que c'est la vérité et ils vont laisser partir. Mais pour que ça se passe, il faut avoir déjà les coureurs devant et il faut avoir les jambes aussi pour faire le show devant.
Attention à la malice quand même du directeur sportif et du manager de UAE. Hein. Parce que moi, à leur place, tous les directeurs sportifs qui viennent me voir m'ont dit « Tu vas laisser partir les coups ?» Moi, je dis oui. Hein. Comme ça, ça dure 2 heures et ça fait 2 heures à pas rouler. Hein. Ça, c'est aussi la stratégie. Moi, il fut un temps où mon directeur sportif avait été discuté avec le directeur sportif de celui qui écrasait la course à l'époque. Soi-disant, on les avait aidés sur 2 étapes de plaine et puis ils devaient laisser partir une échappée avec l'un des nôtres pour prendre le maillot jaune et se soulager parce qu'il l'avait pris très tôt dans le contre-la-montre par équipe. C'est jamais arrivé. Hein. Donc, il y a aussi beaucoup de bluffs. Il est évident que demain, les équipes, elles ont intérêt d'aller faire ça. Mais l'équipe UAE a aussi intérêt de leur dire « Allez-y les gars ».
Est-ce que c'est le moment, Jérôme Coppel, où on peut aussi régler ses comptes? C'est-à-dire que UAE va rouler sur certaines équipes, des équipes qu'elles n'ont pas envie de voir briller sur ce tour. Et est-ce que ça se négocie là, en ce moment, dès maintenant, au téléphone peut-être, ou bien ça se négocie dans le peloton?
Non, alors souvent ça se passe en plusieurs étapes. Déjà, UAE, l'équipe de Tadej Pogacar, vont pas laisser partir, ou le moins possible, un Visma Lease a Bike, un Red Bull Bora. Ça, on a compris, ils ont les adversaires principaux dans cette équipe-là. On a vu aujourd'hui qu'ils allaient pas laisser partir. Après, comment ça se passe? C'est le lendemain, les coureurs. D'abord, ça se passe entre coureurs. Tu vas voir les mecs d'autres équipes, c'est quoi votre stratégie? Quelqu'un va aller voir... Un Belge va aller voir Wellens, va lui dire c'est quoi, vous allez laisser partir l'échappée, etc. pour savoir si déjà tu gaspilles des cartouches ou pas. Et ensuite, une fois que le scénario est fait, bah là, c'est les directeurs sportifs entre eux à la limite qui peuvent aller discuter et un peu se mettre d'accord sur la stratégie. Imaginez, on reprend le scénario d'aujourd'hui. Si Alex Baudin et Nicolas Prodhomme ont suffisamment d'avance pour se disputer la victoire. Bah, les DS dans la voiture, ça parle. Alex, tu prends le maillot jaune. Nicolas, on te laisse l'étape. Entendez-vous jusqu'à la fin et chacun y trouve son compte. Voilà, mais il faut que le scénario soit déjà installé. Mais au départ, c'est entre coureurs que ça va se négocier pour savoir si, enfin, se négocier ou parler pour savoir si l'échappée va aller au bout ou pas déjà.
D'autant que demain, c'est une étape très difficile encore et que les candidats ne vont pas être si nombreux que ça. Et que les équipes capables de remporter l'étape de demain. Avec au bout un coureur qui peut porter le maillot jaune sans péter le surlendemain dans le Tourmalet, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça, il va falloir choisir. Hein.
Oui, et c'est le cas de le dire, puisqu'on arrivera à foi, Richard. Ouais, bravo,
c'est pour ça que je
te félicite.
C'est facile, là.
Bon, je sens qu'on a besoin d'une petite pause fraîcheur, tous. On revient dans un instant.
RMC, 19h20.
L'After Tour. Pierre-Yves Leroux. C'est reparti pour la deuxième mi-temps de l'After Tour avec la partie consacrée plus précisément aux Français et notamment notre page Paul Sexas. Un Paul Sexas aujourd'hui un peu plus paisible, en tout cas dans la gestion de course, même s'il a fallu quand même faire des efforts sur la fin et qui grignote sur certains adversaires. Tu l'as trouvé comment, Richard, aujourd'hui, notre polo national?
Bien, je pense que il a pas eu de soucis, donc il est resté dans les roues et après il y a eu cette accélération de Del Toro là comme un scooter et tout le monde était derrière. Non, mais pour être là déjà il faut être costaud, donc ça promet. C'est-à-dire que je pense que il aura pas besoin d'attaquer. Hein. Les adversaires vont se coucher les uns derrière les autres et lui à un moment donné il va pouvoir constater et peut-être à un moment donné faire le compte parce qu'il faut qu'il qui court quand même à l'économie, hein, notre cher Polo. Il est jeune, il faut qu'il observe et à un moment donné, ça sera peut-être à lui d'y aller. Mais je pense qu'il a fait une bonne étape, ça va le mettre bien en confiance parce que quand on se retrouve dans le final et qu'il n'y a que des champions, parce que lui, il est tout jeune. Hein, il y a quelques temps, il regardait Pogacar à la télé gagner le tour. Là, il est dans sa roue à quelques mètres. Vous imaginez dans sa tête comment ça doit faire. Donc, et plus tout ce qui se passe autour de lui. Là, on va vraiment arriver dans le Tour de France, hein, l'étape de demain. Il va vraiment sentir qu'il est au Tour de France et que c'est une course à part. Parce que là, on était en Espagne. Bon, c'était le public, certes, était là. Aujourd'hui, l'arrivée, vous avez vu, les 50 derniers kilomètres, il y avait un peu de public, mais c'était ceux qui étaient là depuis une semaine. Mais demain, l'étape, on va vraiment être dans le tour. Donc, Paul Cessas va vraiment rentrer dans la course à partir de demain et il va commencer à trouver ses marques. Mais pour l'instant, malgré ses petits ennuis, il se porte bien.
Jérôme.
Moi, j'ai deux, trois petits signaux qui me rassurent pas, qui, clairement. J'ai vu aujourd'hui le sprint, notamment alors par rapport au punch de Pogacar et même celui de Carapaz, voire celui d'Evenepoel. Mais j'attendais à ce qu'il soit au moins au niveau de Vingegaard. Il n'y a pas été. Il s'est rassis. Alors, il fait des sprints
assis. Il n'a pas perdu de temps.
Il n'a pas perdu de temps, ça c'est sûr. Il en a même gagné par rapport à certains, notamment à Ayuso, Del Toro. Mais bon, je n'ai pas senti euphorique. Il a pour moi, il est bon. Après, dans sa stratégie aussi, je stresse beaucoup à l'approche des ascensions finales et notamment au niveau du placement. Je trouve qu'il a cette faille, que j'aimerais pas qu'il se fasse piéger sur un moment d'inattention ou sur un moment compliqué tactique dans un final de course, parce que je trouve qu'il est souvent assez loin.
On précise. Tu sais qu'est-ce qui lui manque Moi, je pense qu'il lui manque tout simplement des jours de course. Pourquoi ? Parce que il faut pas oublier qu'il a pris une pelle au Dauphiné et que le Dauphiné, il avait mis dans sa préparation et il a été au tapis. Donc il est rentré, il a dû soigner tout ça. Il a pas fait le championnat de France. Donc il est là, mais il lui manque ce petit truc. Et ce petit truc, il va le choper, je pense, dans une grosse semaine, 10 jours, et il va être au point bien qui va arriver au bon moment. C'est pour ça. Parce que là, on le sent là, mais il lui manque le. Tu vois, il est un rupteur et c'est la compétition, je pense. C'est le côté compétition qui lui manque, à mon sens, en tout cas.
Bon, en tout cas, Christophe, il a gagné 2 secondes sur Lipovic, sur Evenepoel, sur Del Toro, sur Ayuso. Donc,
une belle journée. Il fait quand même 4e aujourd'hui, 9e hier, 6e lors de la première étape. On rappelle qu'il a 19 ans, c'est un gamin. Alors, évidemment, on l'a vu tellement beau sur les classiques que certains imaginaient qu'il soit à la bagarre avec Pogacar. Mais attendez, il est à la bagarre avec les autres. Il est quasiment au même niveau que les autres. Il n'est pas au niveau de Pogacar. Mais qui est au niveau de Pogacar ?
T'as raison.
Voilà, c'est le seul truc. Je pense qu'il est vraiment à sa place, moi. Hein. Franchement, je ne suis pas déçu jusqu'à présent. Hein.
D'ailleurs, si on enlève le chrono, il n'a pas perdu énormément de temps sur Pogacar.
Non, et là, il termine. Il est à la queue leu-leu. Ils sont bon. Il termine 4e. Il s'est fait doubler par Carapaz, qui a un vieux roublard.
Non, mais attention, voilà. Carapaz.
Carapaz, c'est sur son effort. Attention, c'est sur ses qualités en plus.
Ouais, hein, Carapaz, là, c'est son effort. Ouais.
On va faire la petite photo habituelle de l'ambiance du côté de l'équipe Décathlon, CMA, CGM. On va retrouver notre reporter en chef, Léna Marjac, qui a passé sa journée pas très loin de l'équipe de Paul Cessas. Bonsoir, Léna.
Salut tout le monde.
Alors, bon, ça va être la question un peu tous les jours, même si, pour l'instant, on n'est pas très inquiet. Plutôt une journée confortable, un peu le sourire dans cette équipe, non ?
Oui, toujours. En tout cas, Paul arrive toujours avec le sourire quand il arrive au bus. Là, tout à l'heure, il est arrivé tout seul à vélo, peu de temps après l'arrivée. Il faut dire que les bus étaient stationnés assez loin ce soir, bien en contrebas de la station des Angles. Il avait évidemment aussi son gilet de glace sur le dos. Et il a rapidement débriefé cette étape avec son entraîneur Alexandre Paco. Et on le rappelle, hein, c'est ce que vous avez dit, hein, Paul a terminé 4e de cette étape. Il conforte aussi sa 6e place au classement général. Et dans le staff, hein, ce qui ressort, c'est que pour l'instant, tout va bien. Ils sont dans les clous, il n'y a pas de pression à avoir. Donc voilà, après ce débrief-là, Paul a pu faire aussi sa récupération. Il était sur un home trainer ce soir pendant une petite dizaine de minutes. Il était à l'ombre sur le côté du bus devant seulement 2-3 journalistes. Alors nous, on était positionnés derrière des barrières. Maintenant, on nous tient bien à distance de Paul Sexas tous les soirs. Et puis, il y avait également le directeur général de Decathlon CMA-CGM qui était là, Dominique Serriès. Et on a entendu Paul lui dire qu'il y avait dû avoir de gros écarts aujourd'hui sur cette étape. Donc voilà, il a débriefé un peu l'étape avec tout le monde. Et après, ça n'a pas traîné. Il est allé prendre une douche et il est monté rapidement dans une voiture avec Tige Benot, Aurélien Paré-Peintre et Nicolas Prodhomme. La voiture qui est venue les chercher pour les amener à l'hôtel parce que tout le monde dort ce soir à Narbonne avant l'étape de demain.
Ah voilà, on a roulé un petit peu en direction de Narbonne. On se rapproche du départ pour demain. Départ de Carcassonne en direction de Foix. Merci beaucoup Léna. Tiens, bah on en profite, on écoute le directeur sportif Julien Jourdi qui lui aussi estime que la journée a été plutôt bonne.
C'est une belle performance de Paul et l'ensemble du groupe. Hein. On l'a vu dans le final, le collectif a bien répondu présent pour placer Paul. On savait que c'était important dans le dernier virage, à 1,7 km, d'être bien positionné, notamment de prendre la roue à UE et de Poggi, c'est ce qu'il a fait. Après, c'est les jambes qu'on parlait, on va dire, dans les 500 derniers mètres. Il en manque un tout petit peu pour prendre le premier podium de ce Tour de France avec la troisième place qui n'était pas très loin. C'est comme ça, il était plus fort sur la ligne, mais plutôt satisfait de la performance collective et bien sûr celle de Paul. Une belle quatrième place, c'est plutôt bien. C'était pas forcément la vraie étape de montagne, mais ça permet de rentrer petit à petit dans cette montagne. On sait que le point sensible, ça sera le Tourmalet d'ici quelques jours, donc c'est pour la confiance, c'est important. Première belle place de Paul sur les routes du Tour de France, donc la confiance est là.
La confiance est là pour Julien Jourdi, le directeur sportif de cette équipe Decathlon CMA-CGM. Jérôme, il faut souligner aussi le beau boulot de Nicolas Prodhomme, qui aurait pu aller chercher une victoire d'étape, même si ça aurait été compliqué peut-être par rapport à Alex Bonin, on va en parler dans quelques instants. Mais il a aussi servi de grégario, de porteur d'eau. C'est un peu frustrant, mais il sait que c'est son métier.
Oui, bien sûr, il en a l'habitude finalement, parce qu'il a quasiment le même programme de course que Paul Sexas. Non, collectivement, l'équipe a répondu présent. Alors, Nicolas Prodhomme à l'avant, qui a fait le travail, et après on a vu Tige Benot et Aurélien Paré-Peintre vraiment bien le replacer au pied de la dernière difficulté. La petite inquiétude niveau collectif, c'est plutôt Richie Tello qui aujourd'hui termine loin et c'est quand même un grimpeur, donc aujourd'hui il aurait dû être présent aux côtés de Paul Sexas. Donc non, pour l'instant tout se passe bien. Moi je trouve même que, alors oui il a des petits problèmes de placement, mais oublions pas qu'il découvre le Tour de France. Se placer sur un Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne ou Tour du Pays Basque, c'est une chose. Se placer, bien se placer au Tour de France, c'est autre chose. Ça s'apprend aussi avec l'expérience, mais je trouve qu'il fait, je vais pas dire un début de tour tonitruant, mais pas loin quand même. Il a quasiment rien perdu. Aujourd'hui, il fait quatrième, il a 19 ans, sa troisième étape, sa deuxième en ligne sur un Tour de France, il fait quatrième, et il y a Pogacar devant. Ensuite, ils sont trois dans le même temps. Tous les autres perdent.
Voilà, on rappelle les sueurs froides d'hier quand même. Hein. Il a fallu gérer la
et puis, il faut les encaisser, les efforts d'hier, la montée d'adrénaline, etc. Non, pour l'instant, moi, je trouve que c'est un sans faute de la part de Sexas et son équipe.
Bien, parfait. Et il y en a un qui aurait pu faire un sans faute également, c'est Alex Bodin qui était, si le scénario avait été différent, si les UAE n'avaient pas si faim en ce début de Tour de France, aurait pu être vainqueur aujourd'hui aux Angles. Il aurait pu lever les bras. Il est quand même allé sur le podium puisqu'il est maillot à poids et combatif du jour. Christophe, Alex Bodin, on le savait, c'est un garçon qui est en forme cette
semaine. Ouais, en grande forme. Et c'est vrai que ce soir, au lieu d'avoir Pogacar vainqueur d'étape et nouveau maillot jaune, ce qui n'est pas vraiment une nouveauté sur le Tour, on vient d'en parler, et qui risque de se reproduire indéfiniment sur cette grande boucle, on aurait préféré, nous, petits Français, avoir à la place une victoire d'étape française et un maillot jaune tricolore. Et il n'a pas manqué grand-chose finalement, Alex Bodin. 11 km. Bon, tu me diras, c'était les 11 les plus difficiles puisque c'était l'arrivée aux Angles. Et évidemment, la bande à Poggi n'a jamais laissé plus de 3 minutes 30 d'avance à Bodin et à ses compagnons d'échappée qui, après 2 heures de bagarre en début d'étape, avaient donc réussi à s'extirper du peloton. Le Savoyard qui espérait secrètement réaliser aujourd'hui la même perf qu'il y a un mois tout juste lorsqu'il avait remporté la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes et revêtu le même maillot jaune que celui du Tour de France. Forcément, ça donne des idées. Et le jaune, une fois qu'on y a goûté, on rêve d'en recroquer un morceau. Bodin a tout bien fait aujourd'hui pour tenter de rééditer l'expérience, mais il a sans doute oublié qu'en juin dernier, sur le Tara, l'ogre Pogacar n'était pas là, ni même son rival Vingegaard, et ça, ça change un peu la donne. Il n'empêche, le Savoyard n'a pas tout perdu. Demain matin, il s'élancera avec sur les épaules le maillot préféré des Français. Et à qui on le doit, ça ? à Richard Virenque, qui évidemment, oui, 7 fois vainqueur de ce classement. Et depuis, bah, c'est le maillot que tous les grands champions français rêvent de revêtir un jour. Eh bien, demain, il l'aura, Bodin. Et je ne sais pas s'il visera 7 victoires dans ce classement. Une seule, sans doute, devrait lui suffire. En tout cas, à 25 ans, il a franchi un cap cette saison. Lui qui, en 5 saisons, 5 années chez les pros, n'avait encore jamais réussi à décrocher le moindre succès en World Tour. Il faut dire qu'il avait connu un coup dur. C'était il y a 3 ans. Après sa disqualification lors du Giro 2023 pour un contrôle positif au tramadol, cette antidouleur autorisée dans certains sports, pas dans d'autres. L'UCI ne l'avait pas suspendu, mais son équipe, AG2 Citroën, avait décidé malgré tout de le priver de toute la fin de saison et poussé finalement à changer d'équipe pour rejoindre IF Education Easy Post, la formation américaine dans laquelle il se sent comme un poisson dans l'eau ou un pois rouge sur un maillot blanc, mais un grimpeur combatif du jour. Il n'a pas tout perdu et il y a fort à parier qu'on le reverra dans les jours qui viennent.
C'est vrai que j'aurais pu te lancer en te disant, est-ce que c'est un carton vert? Oui, on l'a compris, c'est un carton vert aujourd'hui, ah ben à Alex Baudin.
Ouais. On aurait bien aimé un carton jaune.
Qu'il ait un carton jaune sur le maillot. Mais justement, j'en profite. On va lui donner une note. Je vais vous demander à tous les quatre de donner une note à Alex Baudin. Et Christophe, avec cette présentation et ce papier, tu lui mettrais combien sur 20?
Franchement, qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Il a tout bien fait. Il y a rien à lui reprocher.
Oui, mais enfin, c'est pas parfait non plus. Tu vas pas lui mettre
quoi,
20
sur 20. Le parfait, c'est d'arriver à mettre 10 minutes à Pogacar.
Non, mais c'est au moins d'aller chercher une victoire, d'aller chercher un maillot jaune.
Comment tu
vas lui mettre 20 sur 20, toi?
Non, parce que évidemment,
on n'est pas chez Jacques Martin là.
Parfait, mais bah écoute, tu lui mets quoi, toi? Tu lui mets pas la moyenne?
C'est moi qui pose.
Il termine 40e, donc c'est nul. Donc c'est nul pour toi.
Tu lui mets pas 20 sur 20. Okay. Tu lui mets un bon 14.
Ah bah oui, d'accord, 14. Ah bah,
le mec, que tu sois
dur en affaire. Il est dur en affaire.
Purée.
Allez, les Pogacar,
tu lui mets combien?
Non, mais il faut se mouiller. Allez.
Non, mais vas-y.
Moi, c'est 19 sur 20.
Moi, je lui mets 18.
18. Jérôme Pinot.
Moi, je mets 18. 19. Il gagne l'étape, 20, il a le maillot.
Ok.
Richard, ça, c'est pas ça.
Combien, toi?
22. Oui,
je suis d'accord, hein, 18. Mais Alex Godin, son problème, c'est l'équipe UAE. Hein. C'est eux qui ont décidé de sa réussite ou pas. Hein. Est-ce que aussi il n'y a pas une rivalité entre son équipe, il y a autour d'Italie, vous rappelez, il y a quelques temps, avec qui paye peut-être pour ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est l'équipe UAE qui l'a, parce qu'il savait très bien UAE. S'il faisait l'effort, il condamnait tout simplement, c'était Godin qui allait gagner. Donc voilà, donc mais c'est. Moi, ouais, mais 18 sans problème parce qu'il n'a pas fait de faute et il marche très fort et il nous l'a montré il n'y a pas longtemps.
Et tu vois, j'avais pas forcément pensé à ça, Richard. Alors je crois pas trop à la rivalité. Par contre, c'était le client parfait avec l'équipe parfaite pour avoir le maillot jaune.
Et oui,
et
mais
pour avoir une équipe qui le contrôle, t'as un coureur français qui est maillot jaune, etc. Ils l'ont fait quelques semaines avant sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bah voilà, c'était.
Ouais, mais il y a un couac. Il y a un couac entre UAE et son équipe avec un Tour d'Italie qui s'est mal passé. Donc je pense qu'ils auraient pas supporté de voir cette équipe-là avec un maillot jaune croquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que.
On va voir demain. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'on saura demain. Si c'est ça ou pas.
Moi, on a discuté un peu, Jérôme aussi, et on va pas en faire
vous
le débat.
Vous en avez parlé aujourd'hui, je vous ai pas écouté.
Mais
la
crevaison d'Egan Bernal a été possiblement le moment de bascule et la condamnation du groupe de tête. Parce que Bernal, il a la bonne tronche du mec pour prendre le maillot et défendre. Il a une très grosse équipe, il a été maillot jaune du Tour par le passé, il est bon. Il est fort, mais Queen, on le sait, il fait
donc pas. Donc, UAE lui aurait laissé 10 minutes?
C'est pas impossible, non. pas 10 minutes. Mais ils étaient à 3 minutes hein, quand il a crevé. Et ce serait jamais, il n'aurait jamais pris beaucoup plus que ça. Mais de garder Bernal dans la lunette avec un maillot jaune et une équipe qui va être toute contente de rouler pour Bernal et avoir le maillot jaune le plus longtemps possible.
C'est sûr qu'à partir de cet incident, le temps, l'écart a réduit.
Je dis pas que c'est donc, ça. Donc, mais je dis que c'est.
Donc, les mecs ont plus peur de Baudin. Que de
non, c'est pas Baudin, c'est l'équipe qui représente, c'est la marque. C'est pour ça qu'il y a eu.
Je vais au-delà des choses, Richard, au-delà des petites choses qui sont passées entre ces deux équipes-là. C'est surtout qu'il faut un maillot jaune qui est l'équipe et le coureur pour passer cette étape du Tourmalet et que ça dure au moins 10 jours. Parce oui, que Alex, avec ce qu'il avait fait, aller chercher ses poids, etc., l'euphorie, c'est pas le même que Bernal quand même.
Ah non,
donc,
c'est sûr.
On a peut-être condamné celle-là. Attention à demain. Bah, attention
ouais,
à
c'est
demain.
Dommage parce que Kevin Vauclin n'est pas en grande forme. Sinon, on l'aurait bien vu.
Oui, mais ça peut le remettre sur les rails, Kevin, d'avoir
ouais, défendre
un maillot
jaune. Il peut revenir, je pense, dans la dernière semaine. Dans 10 jours, parce que là, il faut qu'il se renfasse. Hein, il n'est pas bien.
En tout cas, demain, une bonne échappée bien constituée avec Bernal et un de ses équipiers, ça peut aller très loin.
On écoute quand même Alex Baudin. On ne l'a pas entendu aujourd'hui. Forcément, il doit être satisfait d'être sur le podium et d'aller chercher ce maillot à poids. Il avait le sourire en tout cas.
C'est sûr que je suis super fier de l'avoir ce soir et je vais essayer de le garder le plus longtemps possible maintenant que je l'ai. Et ça peut être une différente approche du tour, un peu modifier la façon dont je cours. Donc non, ça peut être sympa de se battre pour ce maillot.
Voilà Alex Baudin, donc évidemment satisfait, il en avait fait un objectif éventuellement, il y aura de la concurrence peut-être dès demain pour aller chercher quelques points, on en parlera dans quelques instants, il y en a, ça peut être suffisant éventuellement pour passer devant. En tout cas c'est un coureur, Jérôme, qui est en forme en ce moment, Alex Baudin. Messieurs, ça sera le principe des dernières minutes, très souvent quand on aura le temps, c'est d'écouter les auditeurs aussi, vous poser des questions à Jérôme Pinault, à Jérôme Coppel et à Richard Virenc. Et on a un auditeur qui est avec nous, Mathieu, bonsoir et bienvenue dans l'After Tour.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Mathieu. Salut, Mathieu.
C'est un plaisir de t'entendre. Bah, peut-être avant que tu poses ta question, peut-être qu'est-ce que tu penses de ces premiers jours de Tour ? Comment tu vis ce passage par l'Espagne et l'arrivée en France aujourd'hui ?
Avec beaucoup d'excitation, comme tous les ans. C'est les trois semaines, je pense, sportivement, que j'attends le plus sur l'année. Donc c'est enfin parti. C'est cool. Ça fait du bien de revoir du vélo en France. Et comme dit, moi j'ai une crainte. Alors pour le classement général, j'ai peur que ce soit très très vite plié. Là, on a vu en deux attaques, pas une fois Vingegaard en mesure de tenir les roues, en tout cas de Pogacar. Moi, je voulais avoir votre ressenti sur l'impression de puissance, de supériorité, de rouleau compresseur que la UAE a déjà mis en place. Ils ont déjà récupéré le maillot jaune et j'ai bien peur que, en fait, ça ne bouge plus l'épaule, quoi.
C'est déjà arrivé. On a connu un Jacques Anquetil portant le maillot du premier jour au dernier. Là, ça ne sera pas le cas puisque Vingegaard a été le premier avec le maillot jaune. Avant de vous entendre, messieurs, juste on rappelle cette équipe, c'est Tadej Pogacar, c'est Isaac Del Toro, c'est Groschartner, c'est McNulty, c'est Polite, c'est Vermeer, c'est Wellens et c'est Adam Yates. Ça fait partie aussi de la réponse. Jérôme Coppel, tiens, pour commencer.
Oui, c'est une crainte. Alors personnellement, j'y crois pas. Enfin, j'espère qu'ils vont laisser le maillot, mais comme tu le dis, Mathieu, ils ont l'équipe s'ils voulaient vraiment pour le garder maintenant jusqu'à Paris, si tout se passe bien. S'il y a bien une équipe qui est capable de garder ce maillot pendant quasiment trois semaines maintenant, c'est bien cette équipe-là. Maintenant, ça serait vraiment ambitieux quand même. Ça veut dire le poids de la course tous les jours. Alors oui, aujourd'hui, ils ont assumé la course sans avoir le maillot, mais là, ils ont le maillot, donc directement. Tu dois assumer le poids de la course. J'y crois pas. C'est possible, j'y crois pas. J'espère qu'ils vont le laisser demain. Et comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, à quelqu'un qui a l'équipe suffisamment solide pour le garder au moins une semaine.
Richard, c'est toute la complexité hein, entre oui. Supporter le poids de la course et avec toute la capacité. C'est là où ça va se jouer, ou avoir envie de faire encore un cadeau aussi, comme Pogacar l'a fait à Del Toro, il peut le faire à une autre équipe. Quoi. Qu'est-ce que ouais. tu en penses, toi ? Tu penses qu'ils vont continuer à taper sur ce tour ?
Non, franchement, ils sont pas bêtes quand même, et ils ont des personnes autour qui les conseillent. Et ça se ressent, vous voyez, là, c'est pesant. Là, je crois qu'ils ont été gavés de ce qu'ils ont eu. Et c'est vrai que il nous faut un peu autre chose, un peu du spectacle et un peu une course. Même s'ils ont les moyens d'écraser tout le monde, il faut qu'ils fassent entre guillemets un peu semblant que qu'il y en a pour tout le monde, parce que sinon ça va être lassant et ça peut tuer le tour. Donc on va dire qu'on souhaite qu'il y ait un virage qui va se prendre dès demain.
Jérôme Pinault, on peut imaginer aussi que, à l'image des classiques où Tadej Pogacar part à 70 ou 80 km de l'arrivée, qu'on soit finalement sur une classique de trois semaines et que les UAE décident d'avoir le lead et de le garder en permanence.
Ce qui m'inquiète, c'est que effectivement, c'est eux qui vont choisir. S'ils ont envie de le continuer à le garder, ils vont le garder. parce qu'ils maîtrisent tellement physiquement, ils sont tellement au-dessus qu'ils vont faire ce qu'ils veulent. Maintenant, pour rassurer notre auditeur, non, je pense vraiment comme Jérôme que le maillot jaune changera d'épaule demain parce qu'il sera beaucoup plus confortable pour Tadej Pogacar, notamment, on l'entend souvent se plaindre du temps passé dans les protocoles, de rentrer après cette arrivée et que ça dure encore une petite semaine, voire 15 jours. Richard l'a dit, le tour se jouera dans la dernière semaine, voire dans les trois derniers jours. Alors je pense qu'il aura gagné avant, moi, mais malgré tout, prendre ce maillot jaune à aller à 8 étapes de l'arrivée, ça lui conviendra parfaitement. Et ils ont un élément aussi à bien gérer, c'est cette fameuse chaleur. Il est toujours quand même beaucoup plus simple d'être dans le peloton, un peu plus loin, aller chercher les bidons, que devoir mener en permanence. Donc ça, je pense qu'ils le savent et qu'ils ont tout intérêt à laisser filer pas très loin, à portée de fusil, mais de le laisser quand même.
Mathieu, t'es rassuré ?
L'avenir nous le dira.
Oui, c'est ça, peut-être.
On n'a pas convaincu, apparemment.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est l'appétit débordant de cette équipe. T'as l'impression que rien ne les effraie. Nils Polite, il peut faire 200, 220, 230 bornes à rouler derrière les échappés. Et le lendemain, il recommence. Il est insatiable. C'est un mangeur de bitume. Et quand lui s'écarte, il reste 20 bornes et ils sont encore 6 à pouvoir rouler pour Pogacar. Donc, ouais, je suis sceptique.
Oui, mais tu sais,
c'est peut-être le moins impressionnant de l'équipe, Nils Polite, en plus, par rapport aux autres.
Ouais,
je comprends, Mathieu.
Avec Jérôme et Richard, on a connu, nous, une époque où il y a une équipe qui aimait aussi écraser les autres, qui était un peu, voire très arrogante, et malgré tout, ils avaient parfois laissé filer le maillot jaune pour pouvoir mieux le récupérer plus tard. Donc, les plus arrogants et les plus dominateurs ont un peu de réflexion et se disent que le tour est long et que plus on va économiser les équipiers, mieux ce sera.
Merci beaucoup. Peut-être un petit pronostic, Mathieu, avant de te quitter sur l'étape de demain, le vainqueur. T'aurais un nom à nous proposer ?
Je verrais bien Paret Peintre, même s'il m'a l'air un tout petit peu juste physiquement. Mais Bernal a quand même la pancarte idéale pour pouvoir récupérer le maillot, surtout que je pense qu'il aura à cœur de se racheter entre guillemets d'aujourd'hui, bien que c'est pas de sa faute, c'est sur un.
Il va falloir changer les pneus chez Net Company si on veut prendre le maillot jaune.
Mais merci beaucoup.
Ça peut être sympa.
Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il a l'air un petit peu en dedans, mais on va se méfier quand même là aussi. Il faut tranquillement lancer la machine pour Valentin Paré Peintre. Merci Mathieu, et on se retrouve éventuellement pendant ces trois semaines du Tour à échanger avec nos auditeurs. Il nous reste juste quelques instants pour parler de l'étape de demain. Tu le disais, Richard, c'est une étape qui est difficile entre Carcassonne et Foix. Tu connais ces terrains-là, tu les as pratiqués au cours de ta carrière. Il y aura une ascension quatrième catégorie, ensuite on passera par une ascension troisième catégorie et puis finir par deux cols de deuxième catégorie, notamment le col de Montségur. Alors, ce ne sont pas des montées très longues, 10 km, 7 km, mais avec des pourcentages à 6, 5 et surtout la chaleur, on le disait il y a un instant.
Col de Montségur, les garçons, c'est un petit tas de fumier. Hein.
Ouais. Ouais. Ouais, surtout Richard, la journée va être très longue.
Très chaude.
Très chaude et ça va être très compliqué. L'avantage pour ceux qui veulent partir en échappée, ça va, même si les 40 premiers kilomètres sont plats, après on arrive dans des petites bosses et ça va être plus facile de partir. Donc je pense que l'échappée va partir à ce moment-là. Et derrière, ben, ça va être un peu compliqué. Ça va être la course au bidon. Et c'est une étape qui va laisser des traces hein, pour aller chercher la foin. Des cols durs, donc il va falloir être motivé et se lancer dans le combat parce que c'est demain qu'on va laisser. Je l'avais dit hier, mais je crois que demain c'est encore plus présent. Après l'étape de après-demain, on sera pour les sprinteurs, donc demain c'est pour les échappés.
Ce col de Montségur, le sommet est situé à 35 km de l'arrivée. Après, ça descend pas mal. Il y a quelques répétitions, comme on dit. Malgré tout, peut-être qu'être un bon descendeur sera aussi un atout demain.
Ça sera forcément un atout. Être un bon grimpeur, bien sûr, pour être devant à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on peut quasiment dire que l'arrivée à 35 km de l'arrivée, faudrait être un bon descendeur, capable de bien rouler. Voilà, il y a quelques petits favoris pour la victoire d'étape, parce qu'il y aura sûrement deux courses en une. Hein. Peut-être une pour le classement général, pour un changement de maillot jaune, je veux dire, et une pour la victoire d'étape.
Ce sera une arrivée moins technique que lorsque Warren Barguil, par exemple, s'était imposé, parce qu'on ne fait pas le tour de la place. Hein. Comme d'habitude, avant, on faisait une espèce de demi-tour à 250 mètres de la ligne. Ça ne sera pas le cas cette année.
Ce n'est pas une montée pour finir, nous, c'est un sprint. Il reste une minute et je veux le nom du vainqueur de l'étape. Soyez aussi bon qu'il y arrive éventuellement.
Alors, pour moi, le vainqueur de l'étape sera Quinn Simon et le maillot jaune sera Egan Bernal. Je t'ai tout donné.
Très bien.
Vainqueur de l'étape, Adam Yates.
Le encore, jaune. Allez.
Et le maillot jaune
Adam Yates.
Le maillot jaune, je vais mettre dans la roue de GG, Egan Bernal.
Richard, on finit avec toi. Ton pronostic pour demain
Paris-Peintre, Valentin Paris-Peintre.
Très bien. Et le maillot reste... Pogacar ou pas?
Ouais, non, le maillot jaune, il va le perdre. Ouais, Bernal prendra le maillot jaune.
Merci beaucoup Richard Virenque, Jérôme Pinault et Jérôme Coppel, les consultants de l'équipe RMC dans l'after tous les soirs entre 19 et 20h. On se retrouve demain, évidemment. Merci à tous.
Bye bye.
RMC, l'after tour.